Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, c'est le maître, vous le connaissez bien, c'est Pierre-Louis Basse qui nous accompagne pendant toute l'émission avec son nouveau roman « Rien n'est perdu » au Cherche Midi. On y revient dans un instant, mais je vous annonce la suite. D'abord, le roman culte, bien sûr, nous lirons la première page du « Rivage des Sirtes » de Julien Gracq. Nous visiterons la bibliothèque d'un autre écrivain, Jean Tellet, on va bien s'amuser. Nous irons fouiner dans les rayons d'une librairie, comme toujours, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La voix est libre. C'est parti. Premier chapitre. C'est une légende de la radio. Au passage, c'est lui qui m'a appris à causer dans le poste. Avant les premiers directs, il me disait « T'inquiète pas, quand on est dans l'eau, on nage ». Ça vaut pour beaucoup d'autres situations dans la vie, je me suis rendu compte. C'est l'un des rares hommes de radio à être reconnu par sa voix. Un jour, je monte dans un taxi avec lui, on discute. Au bout de 3 minutes, le chauffeur se retourne. « Vous êtes Pierre-Louis Basse, non ? » Parce qu'il s'agit de lui. Pierre-Louis Basse, qui est aussi écrivain. On le connaît pour « Ma ligne 13 »,« Séville 82 »,« Le match du siècle »,« Guy Moquet, une enfance fusillée »,« Ça va mal finir ». Il a le sens du titre pour son dernier roman aussi, « Rien n'est perdu ». C'est au Cherche Midi qu'il publie en cette rentrée littéraire un roman sur la beauté qui sauve. Bonjour Pierre-Louis Basse.
Bonjour Nicolas.
Ça me fait plaisir de vous voir derrière ce micro, ça vous manque ?
Oui, ça me manquera jusqu'à ma mort, mais c'est bien aussi les choses qui vous manquent. Les choses qui vous manquent, c'est comme le désir, c'est comme l'absence. C'est peut-être dans ces moments-là que finalement on se construit encore et encore et encore. Bien sûr que je pourrais vous dire aujourd'hui « Ah, Constance Binquet, appelle-moi, je voudrais un micro, je vais mourir ». Bon, non, la vie c'est autre chose, j'ai d'ailleurs officiellement raccroché de... Voilà, journaliste. Mais vous m'avez dit tellement de gentillesse, Nicolas Carreau, qu'on pourrait croire de l'autre côté que voilà, c'est... Mais c'est partagé. J'ai été très heureux de travailler avec toute l'équipe, avec Déborah, avec vous.
Et justement, maintenant, vous pouvez quand même vous consacrer un peu plus. Vous le faisiez déjà, mais vous consacrez à l'écriture. Et Rien n'est perdu, c'est le titre de votre nouveau roman. Rien n'est perdu, mais c'était mal parti. Pour gagner, c'est votre vie que vous racontez dans ce livre, avec, j'imagine, évidemment, quelques fausses pistes, quelques inventions, comme tous les souvenirs, finalement. Et justement, vous revenez au début de à votre enfance, et c'était mal parti pour vous. En tout cas, pour le narrateur.
Oui, le petit garçon n'aime pas l'école, l'école ne veut pas de lui. Il a 8, 9, 10 ans, c'est compliqué, c'est une banlieue qui est pas aussi segmentée qu'aujourd'hui. Il y a tout de même encore un mélange des institutions, une école républicaine qui tout de même fonctionne, qui donne... C'est la fin des années 60, début des années 70. C'est encore très différent. Il y a une violence, bien sûr. À l'époque, on parlait des Apaches. Il y a un climat à la Max les Ferrailleurs. Mais c'est dans cet environnement que ce petit garçon, en effet, se cogne un petit peu aux parois qui l'entourent, même s'il y a de l'amour dans la famille. Et donc, ce sont les terrains vagues, le sport comme seul viatique, les fugues.
Il se cogne au mur de l'école aussi.
Et de l'école, bien sûr.
Et d'un prof en particulier.
Et d'un prof. Je crois qu'on ne mesure pas le petit garçon. Le petit garçon me fait penser, en définitive, vous savez, à ce très beau roman de Weichenfels qui s'appelle Notre philosophe, où un petit garçon, dans les années 30, est dans le sillage de ses parents et entend ce qui se dit. Et en entendant, en écoutant ce qui se dit, reconstruit, c'est ce merveilleux roman chez Actes Sud, je crois, comprend l'époque qui est en train de vivre et comprend pourquoi le philosophe juif qui est de l'autre côté de la rue va disparaître. Là, c'est un peu ça. Moi, le petit garçon écoute et il entend qu'il est un bon à rien. Que le prof a dit, vous savez, madame, votre fils est un bon à rien, ne fera rien de bon. Alors, ça marque quand vous avez 8 ou 9 ans. C'est une éponge.
On est à Nanterre et dans votre immeuble, il y a une femme que vous appelez la femme du dixième. Vous avez quoi, 11 ans ? Bref. Le soir, quand vous rentrez de l'école, elle vous embarque dans la cave et elle vous initie à la sexualité. Vous, vous êtes ni pour ni contre, vous êtes trop jeune. Au début, on se marre, c'est rigolo. Et puis après, quand même, on se dit, mais attends, c'est une prédatrice, en fait. Quoi. C'est le schéma inverse d'habitude. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme le prédateur, c'est une femme la prédatrice avec vous, qui est un gamin. En fait.
Alors, c'est à la fois une réalité et puis un roman. Attention, Nicolas. Non,
ouh, restons dans le domaine. Tout est vrai parce que je l'ai inventé.
Bah oui, je est un autre. Mais Les chiffres sont là.
Non, mais la situation est intéressante, en tout cas. J'ai jamais vu ça.
Non, elle est intéressante. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'on ne la raconte pas. C'est étrange. Ouais. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'assister, je ne suis pas le seul, quels que soient ceux et celles qui en parlent, mais au-delà des chiffres et de l'horreur abyssale de la violence faite aux femmes hein, dans nos sociétés, qu'il faut combattre en permanence, on aurait tendance à oublier qu'il n'y aurait que des prédateurs. Ce qui fait qu'en définitive, quand on fait le procès de quelques porcs qu'on voit, je pense, dans le milieu du cinéma et de tout ce que vous savez, on a l'impression qu'il n'y a que les mecs. Mais c'est pas vrai. La réalité, elle est bien différente. La réalité, c'est qu'il existe des prédatrices aussi, psychologiques, physiques. Ça fait partie de cette vie qui nous entoure. Et qu'en l'occurrence, le petit garçon, en effet, est victime d'une personne, d'une femme, qui a une 50 ou 55 ans et qu'il retrouve et qui, en définitive, oriente peut-être une partie importante de sa vie sexuelle dans son rapport à la violence. Mais le petit garçon lui en veut pas vraiment. Enfin, c'est parce qu'il y a pas de violence, il y a pas d'obscénité de son côté. Il découvre l'amour. Donc c'est très ambigu, oui. Voyez-vous. Mais c'est une façon de poser aussi une réalité qui est plus complexe que celle qu'on veut bien nous faire avaler aujourd'hui.
Et alors cette femme du 10e, un jour, elle se jette du 10e étage, donc, et le narrateur ou vous, enfin, on s'en fout, est au 9e et il la voit passer. Je vis passer sous mon nez un jour de printemps les cuisses magnifiques, mais à l'envers, d'une femme qui logeait à l'étage supérieur.
C'est une image qui s'incruste. Vous savez, quand vous habitez, quand vous vivez dans une tour, dans un endroit, là, il se trouve que c'est ce que le petit garçon, ce que l'auteur appelle aujourd'hui, ce que j'appelle la Madone fatiguée, parce qu'elle avait ce visage fatigué, un peu à la Botticelli en ovale, très, très, très puissant dans les souvenirs, très belle. Elle passe, mais d'autres passent de temps en temps. Et alors, c'est très, très étonnant dans une vie. Ouais. Quand vous habitez dans un immeuble et de temps en temps, vous voyez passer un truc, et alors, il se trouve que c'est un corps, c'est un suicide, c'est très troublant pour un enfant. Ça trouble l'enfance. Ça la perce et ça le trouble. Et en effet, il y a ce corps qui passe et qui s'effondre à la fin.
Ça fait prendre conscience d'une certaine misère sociale aussi.
Ça fait prendre conscience, bien sûr, d'une solitude aussi. Cette femme était sans doute très fatiguée, n'avait pas un horizon, si je puis dire, puisque l'horizon s'est réduit, étant donné qu'elle s'est foutue par la fenêtre. Mais oui, c'est aussi une impasse. Après, dans le roman, le petit garçon la retrouve et elle fait ses affaires dans une cabane à lapins du côté de la Défense. Là où aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que là aujourd'hui, une nouvelle bourgeoisie à Nanterre, un peu nomade, comme on dit, fait pousser des carottes durables et des herbes folles.
Ça, vous aimez bien.
C'est la réalité.
On y revient. On traîne dans les terrains vagues de Nanterre avec le copain, on glande à l'école, mais on fait aussi des belles rencontres dans ce livre. Une rencontre avec la beauté, c'est dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Pierre-Louis Basse qui publie Rien n'est perdu. C'est au Cherche Midi, l'histoire d'un gamin du côté de Nanterre. Un gamin un peu perdu, pas tellement brillant à l'école, mais qui va faire une rencontre décisive bientôt. On va y venir, mais c'est aussi une enfance, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les terrains vagues. J'aime bien moi les terrains vagues et j'aime bien cette formule. Et d'ailleurs, vous l'écrivez en italique, terrains vagues, dans le livre. Pourquoi ?
Peut-être parce que je pensais au moment où j'écrivais ce roman à une vague de rêve d'Aragon. Il y a quelque chose dans le terrain vague. En effet, peut-être est-ce la raison pour laquelle je l'ai écrit en italique. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'errance, avec la poésie des lieux, avec le départ aussi. Terrain vague, terrain inachevé, terrain en friche. Mot friche aussi. Et c'est cette banlieue, tout de même, c'est bien sûr pas l'immédiate après-guerre, mais c'est quand même encore une France qui se reconstruit. C'est la France des Trente Glorieuses. Il y a beaucoup de moyens. Il y a toute cette migration qui vient de l'autre côté des montagnes pyrénéennes qui sont arrivées. Les Maliens, les Algériens, les Portugais sont déjà là, mais il y a tout un mélange. Et cette migration reconstruit notre pays et en particulier cette partie de Nanterre qui est tout à fait dans le triangle Neuilly, le Valois et tout cet ouest parisien qui va se reconstruire et qui porte encore des bidonvilles et une souffrance à l'époque, puisque le petit garçon va souvent le soir avec son papa visiter des bidonvilles, des élèves, le père est prof de gym et l'emmène parfois dans les bidonvilles. Il donne des cours du soir à des enfants et c'est aussi tout cet environnement qu'il a et qu'il découvre.
Puis le terrain vague, il n'y a rien à casser là-bas. Donc il y a une certaine liberté dans cette anarchie-là.
Oui, il y a une liberté. D'ailleurs, quand la neige va arriver de façon très, très forte et puissante, comme on ne la voit plus, on pourrait même presque se croire d'une forme de plaine ou de première montagne, enfin, avec les chantiers qui ne sont pas terminés, qui sont en construction, les premières tours qui deviendront les tours Pablo Picasso, hein, dont on a fait pas mal de documentaires, et qui deviendront des repères, hélas, de violence et de ghettoisation là aussi. Donc c'est une... Oui, c'est une France en noir et blanc, en définitive. Je pense à des films qui m'ont marqué, plus tard ceux de Melville, et d'autres, bien sûr, les films d'Audiard, mais c'est une banlieue en noir et blanc, avec ses bistrots, ses bistrots d'arabes, cette espèce de soirée entre chien et loup, où le petit garçon aime bien traîner, où il n'est pas trop loin, en définitive, de l'appartement où il peut se balader, dans cette liberté. Mmh. La question est de savoir s'il va y rester ou s'il démarrera autre chose.
Alors, ce n'est pas Oliver Twist, hein, ça rigole aussi dans le roman. Ouais. Il y a de la légèreté. Mais quand même, avant de devenir à l'espoir et avant de venir à la lumière, on reste un peu dans la noirceur avec une autre forme de traumatisme qui est aussi très, très, une très belle chose quand vous l'écrivez. Vous y mettez aussi de la lumière par l'écriture. C'est l'absence d'un frère aîné, Jean-Jacques, que vous n'avez jamais connu. Il est mort, tout bébé. C'est une ombre, c'est un soutien.
C'est un fantôme. C'est-à-dire que il faut d'abord savoir que le petit garçon est entouré vraiment d'amour, avec deux sœurs formidables, différentes bien sûr l'une de l'autre, mais formidables, des parents engagés. L'amour n'est pas en cause.
Oui, mais quand vous naissez, vous dites vous le remplacez poste pour poste. Bah,
c'est-à-dire que c'est très troublant, puisqu'il meurt en 48. Il meurt en 48 et il se trouve que je viens au monde en 58, 10 ans plus tard. Pas jour pour jour, mais bon. Et c'est le fils que le père attendait, et qu'on n'attendait presque plus, tellement on l'attendait. Et donc c'est complexe, ça vous place dans une situation, vous voyez, c'est comme comme un brouillon et puis un original. C'est très complexe, parce que même si la maman ne martèle pas toutes ces années, il est là. D'ailleurs, il est là dans les conversations parfois, Jean-Jacques. Alors ça souffle quelque chose qui a à voir avec une forme de tristesse qui dure, et puis de chuchotement. Mais les uns et les autres n'ont pas besoin d'être tristes pour que la tristesse s'installe, comprenez-vous. Et je crois que le livre est construit alors sur ce triptyque assez troublant. Jean-Jacques, qui est là sans être là, et puis une sœur qui a été la première à venir, Jeanne, et qui, elle, est comme au bord de la falaise. Elle est la première, donc vous vous rendez compte, il faut absolument la surprotéger. L'autre étant au milieu du guet, est peut-être plus à l'aise, finalement, et plus, en tout cas, plus déterminée. Mais les deux, le premier fils que je suis, en effet, là, il s'agit de ma vie et d'un rapport autobiographique, et la personne qui arrive après Jean-Jacques, sont comme tous les deux un peu au bord de la falaise, en définitive.
Alors on fait des allers-retours comme ça entre votre enfance et aujourd'hui, mais on sait dès le départ qu'il va y avoir un moment de bascule, une rencontre, et tout le roman nous y amène. C'est un tableau très connu, Les roulottes de Van Gogh. Il est en bandeau sur le livre, des roulottes donc à l'arrêt, mais aussi des enfants autour, un couple, avec un ciel très particulier, un vert véronèse, écrivez-vous. Hiver 71, vous découvrez ce tableau, comment et qu'est-ce que ça change?
C'est-à-dire qu'on demande au petit garçon une rédaction, bien évidemment, c'est voué à l'échec.
Oui. Bon.
Et la grande sœur, Jeanne, propose à ce petit gars d'aller voir une exposition temporaire de Van Gogh. Savoir que la toile, Les roulottes, a beaucoup voyagé. Musée du Louvre, elle a été rachetée en 1917 ou 18, je crois, par Coquelin, un journaliste des débats. Puis après, elle a voyagé. Et là, elle se trouve, il y a une exposition temporaire à l'Orangerie. Et elle prend prétexte de cette exposition pour l'emmener. Voilà, c'est l'hiver. Et il se produit une chose dont je suis convaincu qu'elle peut se produire aujourd'hui, demain ou après-demain pour d'autres, pour beaucoup d'autres que moi. À savoir la rencontre avec la beauté, avec luxe, calme et volupté, écrit Baudelaire. Mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un carré de lumière, qui n'est plus seulement un carré de sport qui pouvait distraire le petit garçon, qui est à la fois un mélange de beauté, de fulgurance, de légèreté, d'échappée belle, ces petits enfants, ces trois enfants qui batifolent comme les chevaux broutent dans l'herbe, ces roulottes comme sur le départ, Il y a un côté western aussi, peut-être que ça joue.
Les Alors, couleurs.
Les couleurs, bien sûr, les couleurs, la lumière, le soleil.
L'étrangeté
terrible.
Aussi.
L'étrangeté. Et tout cela est réuni. Tout cela est réuni et fait un ensemble. Et il faut faire une rédaction. Et je dis souvent, et je l'ai écrit dans le roman, je me demande si la toile, si la peinture, bien des années après, puisque j'ai pu revoir tout seul au musée d'Orsay, et je remercie le musée d'Orsay de m'avoir permis de revoir tout seul cette toile, bien des années après, je me demande si la toile ne m'a pas regardé autant que je l'ai regardée.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Cette beauté qui prend la peine de vous regarder, c'est ce que vous écrivez.
Oui, c'est comme une femme, quand on aime les femmes, qui vous regarde ou qui ne vous regarde pas. Ou un homme, une amitié, ou peu importe. Enfin, c'est un lien.
Ça déclenche quelque chose. Vous écrivez la rédac, 18 sur 20, mais le prof vous dit, je te mets 18, mais je sais très bien que c'est pas toi
oui,
qui
ça,
l'a fait.
Oui, ça continue.
Salopard, bon bref. Mais moi, j'ai une théorie. Est-ce que c'est pas grâce à cette rédaction que ce déclencheur a fonctionné, c'est-à-dire que en la fixant ses impressions sur le papier comme un écrivain, vous avez sublimé cette rencontre. Peut-être que si vous n'aviez pas eu à écrire de rédaction, le souvenir se serait envolé.
Ce qui est certain, c'est que le petit garçon qui ne se sentait pas légitime, et ça, en revanche, c'est une tâche qui a duré 50 ans après, qui ne s'est jamais senti légitime, et vous le savez bien, quand on a travaillé ensemble, Nicolas, je ne me suis jamais senti légitime, dans quelque endroit que ce soit. Jamais riche avec les riches, jamais pauvre avec les pauvres, jamais dans le pouvoir avec le pouvoir. Et voilà, jamais. C'est une forme de liberté aussi de contrainte. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a déclenché l'envie d'aller vers autre chose. Ça, c'est certain. D'aller vers quoi ? De pousser une porte derrière laquelle il y avait les livres, il y avait le sens du travail. On n'obtient rien sans travail et sans contrainte. C'était, d'une certaine manière, les fugues, c'était fini. C'était la concentration, la littérature, l'histoire. Et puis après, un métier à apprendre. Oui, cette peinture a donné tout cela. Encore fallait-il la mettre en forme et avoir l'énergie d'y aller. Le petit garçon l'aura.
Est-ce qu'elle est encore à porter, cette culture, ce choc esthétique aujourd'hui ? Je pense au livre de Bret Easton Ellis, l'écrivain américain, l'auteur d'American Psycho, qui expliquait dans un essai qu'il n'écrivait plus de romans parce qu'il pensait que la nouvelle génération n'était plus capable de se poser plusieurs heures d'affilée, d'ailleurs sans lui jeter la pierre à cette génération. Simplement, c'est comme ça. Le fait est qu'aujourd'hui, les distractions sont peut-être trop fortes et on dépasse rarement une demi-heure de concentration et encore.
Oui, je pense qu'il a... Ellis a tout dit ou presque. Philippe Roth a dit des choses très importantes avant de mourir. Je me souviens d'un entretien avec Josiane Savigno.
Vous êtes inquiet pour ça ?
Inquiet. C'est une réalité incontournable. La peur ne prévient pas du danger. Oui, l'aspect disturbatif, disait Stigler, qui nous a quittés il y a quelque temps, est là. C'est-à-dire qu'on peut faire telle ou telle chose en même temps, une autre, une troisième, une quatrième. Je pense que dans les moments, et c'est la raison pour laquelle une émission comme la vôtre est vraiment fondamentale, dans les moments où on peut sauver encore une part de silence, de lenteur, de réflexion. Alors sauvons ces moments. Pour le reste, oui, je pense qu'on a enclenché quelque chose. Enfin, on a la civilisation dans laquelle nous vivons a enclenché quelque chose qui se situe à mi-chemin du cirque, des guignols et d'une forme pathétique de disparition. C'est-à-dire que voilà, c'est mais c'est ainsi. Et moi, ça m'inquiète pas. Je préfère le rire. Je trouve d'ailleurs qu'un type comme Houellebecq, j'en parle de Houellebecq parce que je me suis bien battu à Europe pour l'inviter il y a bien longtemps. Pour les particules et avant même pour ses poèmes, pour son extension du domaine de la lutte ou pour le sens du combat. Je me souviens avec un camarade, Sylvain Attal, je m'étais battu pour qu'il vienne. Et parce que je sentais peut-être que là, il y avait quelque chose qui avait à voir avec un tremblement de terre. Et regardez bien, Nicolas, bien sûr qu'il y a ses romans aujourd'hui. Il excelle dans le comique. Mmh. Ah. Et c'est ça la force. C'est qu'il essaie de retourner, c'est un peu la technique du judo. C'est de retourner la tragédie en une farce, c'est ce qu'il fait, et c'est d'autant plus puissant.
Mais c'est votre technique aussi, parce que vous êtes toujours dans une forme de mélancolie, mais qui est toujours contrebalancée par une forme d'espoir. Et dans le livre, alors il y a l'art, évidemment, il y a les tableaux qui peuvent être un choc esthétique, mais il y a aussi simplement le chant d'un petit gitan qui traînasse dans un village en Normandie.
Ah ouais, ça c'est... Bah, c'est
donc c'est partout, finalement.
Bah, c'est peut-être là, moi je sais pas si je suis écrivain, moi. J'écris des livres, bon, ils sont publiés, je ne sais pas si je suis écrivain. Ce qui est certain, c'est que si je suis une personne, enfin un auteur qui s'intéresse voilà, à la fois au réel, il faut que le réel tremble. Quand je vois le... Il y a deux façons de voir la vie. soit le gitan il passe devant toi, Nicolas, et c'est dégain, tu le regardes même pas, soit tu t'arrêtes et tu te dis, putain, il y a une beauté quand même, il se sourit à lui-même, il est complètement à la ramasse, mais quelle beauté, quelle solitude. Je dis souvent, il y a deux façons aussi de voir la vie, celle que nous vivons, les temps modernes. Quand il y a une poussette qui passe dans la rue et que dedans il y a un petit caniche, soit tu considères que c'est normal qu'il y ait un petit caniche dans la poussette, avec les trentenaires derrière, en roulette, soit tu te dis que c'est nouveau, quoi. Ça fait. Voilà. Y a la drôlerie, c'est Billy Wilder qui explique très bien ça sur l'humour. Il faut que ça soit possible pour qu'on rie. Si c'est un truc trop surjoué, on rit pas.
On rit
pas. Donc voilà le.
Merci Pierre-Louis Basse, rien n'est perdu, c'est au Cherche Midi, vous restez avec nous, gardez vos cartouches, je vous ai piqué cette expression au fait, ouais. Merci. Dans un instant, c'est le livre culte et lequel on va lire du Julien Gracq.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue toujours avec Pierre-Louis Basse qui publie son nouveau roman « Rien n'est perdu » au Cherche Midi. Et oh, ça va vous faire plaisir ça Pierre-Louis, il est temps d'ouvrir un livre culte et c'est l'un de vos romans fétiches comme par hasard, « Le rivage des Sirtes » de Julien Gracq alias Louis Poirier. Publié en 1951, Le Rivage des Sirtes se passe dans un monde fictif, imaginaire, du côté d'Orsena. Au passage, c'est pour ça qu'Eric Orsena s'appelle comme ça. On trouve dans la cité d'Orsena donc un certain Aldo envoyé dans une forteresse au bord de la mer des Sirtes. Juste en face se trouve le Farguestan, en guerre contre Orsena depuis des temps immémoriaux. On suit donc Aldo et son ascension et son histoire d'amour avec Vanessa, aussi une descendante d'un partisan du Farguestan. C'est aussi l'histoire d'une guerre, peut-être de toutes les guerres d'ailleurs. Le roman a obtenu le prix Goncourt en 51, mais Julien Gracq l'a refusé. Et le jury savait qu'il refuserait puisque Gracq avait prévenu haut et fort, mais je cite l'Académie Goncourt de l'époque. « Nous avons jugé que ce livre était le meilleur de l'année, nous le disons, un point c'est tout ». Et nous, eh ben nous allons lire la première page du roman avec le comédien Philippe Dussault. Un point, c'est tout.
J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena. Je garde de mon enfance le souvenir d'années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des Champs, au bord de la Zinta, où nous ramenait chaque été et où j'accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Mes études terminées dans l'ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses et la fortune dont je fus mise en possession à la mort de ma mère, firent que je me trouvais peu pressé de choisir une carrière. La seigneurie d'Orsena vit comme à l'ombre d'une gloire que lui ont acquise au siècle passé le succès de ses armes contre des infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l'Orient. Elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde et que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts des créanciers son activité faible, mais paisible encore et comme majestueuse, est celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laisse incrédule sur le progrès continu en lui de la mort.
C'était la première page du Rivage des Sirtes de Julien Gracq, lu par le comédien Philippe Dussault. Pierre-Louis Basse, vous avez un rapport particulier avec ce livre et cet écrivain, non ?
Alors avec ce livre, bon, c'est un texte magnifique, c'est le livre sur l'attente, j'ai envie de dire sur la fièvre, et l'inverse de l'ennui. Sur Gracq, je suis le dernier à la radio à avoir fait une interview de Gracq. Bon, voilà, cherchez pas, c'est moi. S'il y a au moins une fierté.
Mais pourquoi vous aviez absolument tenu à le rencontrer à Saint-Florent-le-Vieil?
C'est très simple à l'époque, c'est Denis Jambard qui était d'accord. On était en 96. Et je me suis dit un matin au réveil, que reste-t-il du surréalisme ? 1996, c'était le centenaire de la naissance d'André Breton, qui était né en 1896, à Tinchebray, dans l'Orne. Je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose autour du surréalisme. Et je prends mon téléphone, je me mets en cabine en Europe, et j'appelle M. Poirier à Saint-Florent. Il me dit, oui, venez, venez.
Julien Poirier, qui est le vrai nom de Julien Gracq.
Venez, monsieur, j'écoute vos bulletins d'information. Puis en fait, je lui ai dit clairement, il savait d'ailleurs que j'étais grand reporter de sport à l'époque, et j'y suis allé. Venez me voir, mais sans magnétophone. Hein. Et je revois encore Souchier, il me dit, tu l'auras pas.
Dominique Souchier, une autre légende d'Europe 1.
Et j'y vais, et finalement, on a parlé pendant des heures et des heures de littérature allemande, m'expliquant pourquoi il n'irait jamais voir François Mitterrand à l'Élysée, qu'il l'invitait sans arrêt. François Mitterrand avait l'habitude de poser toujours un livre de Gracq, de façon assez faussement distraite, à côté de lui, et il n'était jamais allé à l'Élysée, il m'avait expliqué pourquoi. Puis surtout, il m'a parlé. Il m'a donné un entretien de 20 minutes, et j'en suis très fier.
Vous êtes sorti comment ?
Je suis sorti heureux, voilà, je suis sorti heureux parce que on a parlé de Lautréamont ou du surréalisme, comme si c'était hier, quoi. Le Gracq était, il soignait sa sœur à l'époque. On est en 1996. Je me souviens très très bien, c'était Paris changeait. On avait fait des paris à la rédaction avec la gauche allait prendre la mairie, mais pour des raisons pas forcément idéologiques. Il y avait un changement. Les trottoirs commençaient à être envahi pas les trottinettes à l'époque, mais les rollers. Il y avait un changement de la chorégraphie à Paris. Et il en parle dans cet entretien. Il m'explique en quoi forme d'une vague de rêve pourrait revenir de désordre. Mais c'était Gracq, c'était quand même... C'était, vous savez, c'est l'histoire de Coluche disant même celui qui a vu les yeux de Napoléon meurt. Mais là, c'est pas Napoléon, mais c'est Gracq quand même. C'est donc quelqu'un qui était.
Mais c'est vrai que c'est déstabilisant de rencontrer un immense écrivain comme ça. Comment on explique ça ? C'est parce que, quoi, on voit quand on le rencontre, il dégage quelque chose. C'est des gens qui n'ont plus rien à prouver, surtout à l'âge qu'avait Julien Gracq.
Je crois qu'il a accepté.
Une liberté de l'écrivain ?
Ouais, une liberté. Bon, il était quand même. Je dis pas qu'il était dans la pause, mais il avait refusé le Goncourt pour le Rival des Cires, justement. Il avait refusé le Goncourt. Il n'était pas dans la pause, mais il ne parlait pas ou très peu, et il a jamais voulu faire de nouvel entretien avec moi, par exemple, filmé. Je pense que ce qui m'impressionnait, oui, c'était le fait que c'était le siècle derrière, quand même. Siècle littéraire, la guerre. Il était quelqu'un qui vous parlait de la mobilisation en 1914, encore une fois, comme si c'était hier. Et puis je crois qu'il a accepté de me parler parce qu'il a vu que, tout en étant grand reporter de sport, je crois qu'il a aimé le fait que j'assume cette contradiction et que je connaisse son travail. On a parlé de Nantes beaucoup. Nantes est la ville, et ma ville de, non seulement de cœur, mais de chair. Et je crois qu'avec La forme d'une ville, il a écrit l'un des plus beaux livres sur Nantes. Tout ça nous a réunis et j'étais très heureux. Ouais.
Restez avec nous, encore des livres. Dans un instant, nous partons visiter la bibliothèque de Jean Tellet. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio. L'écrivain Jean Tellet vient de publier Crénom Baudelaire aux éditions Mialet Barreau. Une biographie, mais à la Jean Tellet, c'est-à-dire bien, bien décalée. Je vous fais une confidence. J'adore Jean Tellet. C'est la gentillesse faite homme. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour lui rendre une petite visite dans sa bibliothèque. Bonjour Jean Tellet.
Et bonjour.
Merci de nous recevoir presque chez vous.
Ouais.
On est dans votre immeuble.
Ouais.
Mais votre appartement est au troisième étage.
Ouais.
Et vous avez une toute petite mini pièce au rez-de-chaussée,
ouais,
charmante.
Dans une arrière-cour, ce qui fait que le matin je pars au travail, j'ai 2 minutes et demie pour y aller, et le soir je reviens. Et ça c'est vraiment bien parce que presque, je suis très envié par mes copains écrivains qui eux travaillent à la maison. Et ça ne doit pas être agréable, ça. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un endroit qui soit un endroit de travail.
Vous n'avez pas trop le stress des transports, quoi, le matin ?
Ah non, je ne suis pas emmerdé avec ça, non.
Ça va, quoi. Ouais. Alors, donc, c'est une petite pièce. Les murs sont presque nus. Il y a juste une vieille photo en noir et blanc encadrée,
ouais,
avec des gamins dans une classe. C'est quoi ?
C'est votre... C'est la photo de classe d'Arcueil à l'école Jules Ferry. Et c'est Jean-Paul Gaultier qui me l'a donné parce qu'on se connaît depuis l'école maternelle. Et moi, je suis ici et lui, il est là. Et il a le même cadre et la même photo chez lui.
Mais il y a les blues et tout.
Ben ouais, ben c'était en 61, quoi.
Ah oui.
Et moi, je suis resté. Et là, ça tombe pas bien parce que l'institutrice qu'on voit, c'était pas celle qu'on avait habituellement, mais c'est l'institutrice qu'on avait habituellement qui nous a appris à lire et à écrire, s'appelait Madame Tapp. Et je suis resté en contact avec elle jusqu'à sa mort. Moi qui ai détesté l'école, j'ai adoré cette institutrice. Et puis même quand elle s'est retrouvée à la retraite, même plus qu'à la retraite, dans une, je sais pas comment, ça, un EHPAD, un truc comme ça, en dessous de Toulouse, J'allais la voir, moi, là-bas, et Jean-Paul l'appelait tout, et elle était super contente, super fierotte.
Elle devait faire la maline.
Je lui envoyais tous mes livres, et à chaque fois, elle m'engueulait. Elle me disait, oui, mais il y a beaucoup de gros mots. Et elle me dit, je lui disais, pardon, Madame Tapp. Et elle me disait, oui, parce que tu comprends, ça m'embête, parce que je ne voudrais pas que les gens se disent, ah, c'est comme ça qu'elle lui a appris à parler et tout. Et j'adorais cette institutrice.
Et alors, justement, là, on est quand même dans le Saint-Dessin, puisque c'est là que vous créez, n'est-ce pas? Et il y a un tableau blanc, Velleda.
Ouais.
Ça sert à quoi? C'est pour faire vos plans et tout ça?
Non, c'est quand j'ai. Oui, aussi. Et puis quand j'écris les pages, au fur et à mesure, je les mets.
Il y a des magnettes.
Je les mets avec les petites magnettes et comme ça, je joue. Et puis aussi les plans, puis sur un tas de post-it, des bouts d'idées qu'il ne faut pas que j'oublie et tout. Et voilà. Et puis je voulais qu'il n'y ait rien dans mon bureau. Pas dans beaucoup de bureaux de copains et écrivains, il y a des photos, il y a des affiches. Si leurs livres ont été adaptés au cinéma, au théâtre et tout ça. Moi, je veux que ça soit un endroit vierge. Je me dis que toute la fantaisie, elle doit être dans ma tête. Elle ne doit pas être sur les murs.
Ouais, c'est une vraie page blanche, en fait.
Ouais, c'est exactement
alors,
ça.
Bon, on est là pour ça. Il y a quand même des livres, mais des livres emprisonnés.
Ouais.
Derrière des barreaux de métal.
Ouais. Et c'est
je ne peux pas y voir de symbole ou de métaphore, mais peut-être.
Non, c'est des vieux meubles tout pourris que j'avais achetés il y a une trentaine d'années. Dans un dépôt vente, et là maintenant j'aurai les moyens de m'acheter des meubles de bien meilleure qualité et neufs, mais comme depuis que j'ai ça, ça se passe plutôt pas mal pour moi, je veux pas échanger. Je me dis, si j'achète des trucs super bien,
ça
si ça se trouve, voilà, ça va me coller la poisse, alors je garde ces meubles pourris. Ouais.
Alors j'ouvre, et manifestement, à première vue, c'est aussi une bibliothèque de travail. C'est-à-dire que là, vous sortez votre roman avec Baudelaire et il y a tout un tas de livres sur Baudelaire.
Ouais.
Je vois aussi quelques livres sur Montespan. Il y a vos livres aussi, d'ailleurs.
Oui, et c'est des livres que je donne aux gens qui viennent. Mais comme là, je viens de finir d'écrire un roman, donc Crénom Baudelaire, je ne les ai pas encore distribués. Mais je ne garde pas les livres, moi. Je me dis que c'est... Avant, quand je déménageais assez souvent, je me disais que c'était un gros problème, les déménagements à les livres. Parce que putain, le nombre de cartons et tout, ça pèse un âne mort et tout. Et c'est embêtant. Et je me dis que si je veux en relire, j'en trouve facilement. Et je garde en fait très peu de livres. Sauf les deux premiers livres que j'ai achetés, c'est un livre en deux tomes de la Bibliothèque Verte Sans Famille d'Hector Malo.
Classique.
Alors ça a été un choc quand j'avais 8-9 ans. Et c'est moi qui jette tous les livres. J'ai toujours gardé ça. Et longtemps...
Mais je m'en souviens, vous étiez venu à Europe 1 parce que je faisais une chronique sur les grands classiques. Vous m'aviez parlé de Sans Famille,
ouais,
avec son héros Rémi, donc qui n'a plus de famille. Et je vous avais appris que depuis les années 90, dans les cours d'école... Quand on appelait quelqu'un un Rémi, c'était quelqu'un qui n'avait pas de copain.
Ouais.
Ça vous avait
sidéré
et ça vous avait attristé.
Ben oui.
Pauvre Rémi.
Et moi, quand j'étais marmot à cet âge-là, bien que je n'avais pas à me plaindre de mes parents, j'aurais voulu être ce petit Rémi là, qui se balade partout en France.
Il y a de la Pléiade aussi, là. Il y a les œuvres complètes de Baudelaire.
Alors ça, ça choque beaucoup les gens. C'est
mon Dieu.
C'est que moi, les livres de la Pléiade, je les stabilote. Il n'y a pas très longtemps, avec ce livre-là, j'étais dans le train, j'allais je ne sais pas où, puis quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous stabilotez un Pléiade? Et je lui dis...
C'est toujours né rose.
Mais oui, et puis des fois, j'écris dans les marges et tout, et je disais, c'est pas parce que c'est imprimé sur du papier Bible qu'il faut faire une génuflexion. Je veux dire, après tout, un livre, c'est du papier. Moi, je me dis, mais il faut respecter les livres. Je dis, mais je m'en fous, moi. Il faut respecter le papier. Il n'y a aucune raison que je respecte du papier. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le livre. Puis c'est bien, les livres vivants comme ça. Moi, mon fils, quand il était tout petit, ça aussi, ça choquait les gens. Je le laissais, quand il avait 5-6 ans, même plus petit, faire tout ce qu'il voulait avec Méli faire des grands dessins, il faisait des monstres et tout, et ça choquait les gens. J'ai dit, mais c'est bien, faut les, leur foutre la paix aux mômes avec Méli, faut les laisser maltraiter les livres, faut qu'il y ait un rapport vivant.
C'est bien leur copain.
Mais oui, et puis, je connaissais un peu Karl Lagerfeld, qui lui me disait qu'il faisait le contraire. Quand il achetait un livre, il l'achetait en deux exemplaires, un qui lisait et un qui gardait dans sa bibliothèque. Et moi, des fois, j'ai choqué aussi des gens où ils me disaient, regarde, j'ai des éditions originales, Les Misérables de Victor Hugo, dédicacées pour Bidule et tout. Et moi, je prenais le livre et je l'ouvrais. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? J'ouvre le livre. Ils disent, mais t'es fou, tu vas casser la couverture et tout. Je dis, mais c'est un livre. Putain, si on l'ouvre pas, ça sert à quoi?
Cela dit, vous avez le syndrome du stabilo, hein, parce que là, il y a un poème qui est stabiloté en entier.
Ouais. Enfin,
c'est pas qu'il y en a une qui vous a plu,
non,
c'est
non,
tout.
Ben
et
oui,
alors, c'est Les Bijoux.
Ah ouais, 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 un des poèmes interdits par... Quand Baudelaire a eu son procès en 1857, il fait partie des six poèmes qui ont été interdits. Interdits jusqu'en 1949.
À cause d'un vers en particulier ?
Non, tout l'ensemble du poème qui était considéré comme très ambigu et tout. Et pendant 92 ans, il y a eu 6 poèmes de Baudelaire interdits. Et il y en a eu 13 d'attaqués sur 100 poèmes, 13 attaqués en justice. Pour outrage à la morale publique et mise à néant des chères croyances du christianisme.
Ça vous fait peur ça, la censure, et y compris les censures modernes ?
Mais je trouve que Baudelaire, qui vivait à l'époque de Napoléon III, où tout était vraiment bien vissé, là on y retourne, hein, et Baudelaire là maintenant il vivrait là, mais il serait en prison, hein, parce qu'il a écrit des poèmes qui sont des poèmes qui sont des féminicides. Le vin de l'assassin, ça commence, si je me souviens bien, ma femme est morte, je suis libre, je puis boire tout mon soûl, lorsque je rentrais sans un sou, ses cris me déchiraient la fibre. Et un peu plus loin, il dit, je l'ai jeté, à propos de sa femme, je l'ai jeté dans un puits, j'ai mis des pavés sur la margelle et tout ça. Et le poème se termine par je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table. Ça raconte un féminicide et où le mec est super content d'avoir buté sa femme. Et plein de poèmes, parce que Baudelaire était tellement misogyne et tout, et sadique et tout. Là, il vivrait maintenant, Baudelaire, mais il est en tôle.
Est-ce que ça vous arrive? Je ne dis pas de retenir la plume, mais d'y penser quand vous écrivez quelque chose,
non,
en vous disant « Oh, ça !»
Non, je m'en fous. Je me dis chacun son boulot. Moi, mon boulot, c'est de faire des choses. Les censeurs, leur boulot, c'est de censurer. Il se trouve que moi, je ne suis pas censeur, donc je fais ce que je veux.
Bon, ben merci beaucoup, Jean Tellet. On a fait le tour.
Merci à vous.
À bientôt. De retour en studio, toujours avec Pierre-Louis Basse qui publie « Rien n'est perdu » au Cherche Midi. Et je rappelle le titre de celui de Jean Tellet, « Crénom Baudelaire » avec un point d'exclamation, c'est chez Mialet Barreau. Et vous, Pierre-Louis Basse, elle ressemble à quoi votre bibliothèque? C'est quoi votre rapport au livre, mais à l'objet?
Avant de vous en parler, j'en profite pour saluer Jean Tellet, qui est un immense bonhomme.
Et ouais, il est super.
Que j'ai pas vu depuis longtemps et on a une belle affection tous les deux. Ma bibliothèque, elle était très très bien rangée.
Là,
il se trouve que je redéménage.
Vous déménagez tout le temps, ça, les auditeurs ne le savent pas, mais vous déménagez très régulièrement.
Quand j'ai écrit un livre, je m'en vais. Donc, il y a une chose nouvelle, c'est que j'ai donné beaucoup, beaucoup de livres à une librairie qui est formidable à Bernay.
Et vous faites un mouvement de délestage.
C'est vrai, c'est un peu ça, mais même avec mes meubles, enfin bon, je réduis la voilure. Vous savez, il y a un moment, un âge où il faut garder l'essentiel. Je ne croyais quand même pas que je vais donner un livre de Modiano, Dora Bruder, dédicacé par Patrick Modiano ou d'autres. Mais je garde l'essentiel, voyez. Et donc ma bibliothèque actuellement, elle est dans les cartons, Nicolas. Donc si vous veniez me voir, ce serait un peu dommage parce qu'elle est cartonnée.
Je peux vous aider à ranger. Hein.
Mais j'ai un peu changé. J'ai longtemps classé par désir et par... et puis je me suis aperçu que c'était bien tout de même d'être... par ordre alphabétique, c'est pratique quand on a besoin d'un texte, de chercher une idée ou de relire quelque chose. Donc,
Bizarrement, parce que vous avez vécu à Saint-Ouen, puis à Paris dans un petit appartement, et après vous êtes parti, maintenant vous êtes à Bernay en Normandie, dans une maison, quoi, normal. Et donc vous auriez pu avoir ce fantasme d'enfin poser une grande bibliothèque avec tous les livres de votre vie, non ?
Je ne l'ai pas, ce fantasme. Je dois dire que Je ne l'ai pas. Je suis plus peut-être dans le... Non pas dans le départ ou les rangs systématiques, mais oui, dans une forme de projet, de reconstruction. Là, je serai de nouveau dans un appartement. À Bernay aujourd'hui, mais peut-être plus loin dans quelques temps ailleurs.
Et c'est quoi votre pièce maîtresse? Celle qui vous tient le plus à cœur? Le livre le plus précieux? Pas forcément d'un point de vue prestige. Celui que vous gardez, quoi, qui est au centre.
C'est vache.
Qui n'est pas dans les cartons.
Oui, qui n'est pas dans les cartons. Un, c'est difficile. Moi, donnez-moi l'autorisation.
Non, mais c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est un.
Bon, la montagne magique de Thomas Mann. Je vais vous dire le.
Dans une belle édition ou dans une vieille édition?
Une édition normale. Non, assez normale. Que j'ai découverte la montagne magique, enfin le livre de Thomas Mann, je devais avoir 16 ans et demi ou 17 ans. Et c'est, je crois que la force vraiment de l'écriture, du livre, c'est là que. Comment le livre. Je ne sais pas si le temps existe, mais en tout cas, les années existent. Ça fait maintenant 50 ans, oui, 50 ans. Eh bien, les personnages, je peux vous les... Mais sans aucun effort. Hans Castorp, Sainte-Imbrini, Nafta, Madame Chauchat. Voilà, c'est l'impression que ces personnages de la montagne magique...
Sont des amis.
Sont des amis et sont là, sont à côté. Et ma compagne, vraiment, leur épaisseur. Bon, il s'agit bien sûr d'un jeune homme, Hans Castorp, qui s'en va, comme il y en avait beaucoup dans les années, dans les débuts du siècle dernier, soigner des poumons. Et derrière, il y a en toile de fond, une métaphore de toute la société allemande, européenne, enfin. Et ce livre, La montagne magique, ouais. La montagne magique, elle est réellement magique parce qu'il ne m'a jamais quitté.
Dans un instant, plein d'autres livres, il est l'heure des libraires.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour de La Voix est livre, toujours avec Pierre-Louis Basse. Rien n'est perdu, c'est son nouveau livre. Au Cherche-Midi, on le trouve notamment chez Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine à Paris. On y va tout de suite. Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour.
Merci de nous accueillir encore à la librairie Lamartine.
Vous êtes toujours le bienvenu, Nicolas.
C'est très gentil. On va faire un petit tour avant votre énorme coup de cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, les deux autres livres qui vous plaisent vraiment beaucoup en ce moment et que vous tendez aux clients en leur disant « Achetez ça immédiatement !»
Alors, on a la chance d'avoir encore et encore de très très bonnes parutions dans cette rentrée vraiment formidable. D'abord, il y a le retour de Teresa Rovet. Teresa Rovet avec La nuit du premier jour chez Albin Michel, qui, à son habitude, nous délivre un grand roman historique parfaitement documenté, qui est très très bien écrit, dépaysant en diable, qui va nous emmener... Effectivement, au Levant, on part effectivement à la fin du 19e siècle et on va suivre le destin d'une femme qui s'appelle Blanche, qui va rejoindre l'homme de sa vie, qui est, lui, vendeur de soie du côté de Damas. Donc, c'est grand roman historique, on traverse les époques, c'est très très bien écrit et voilà, on apprend plein de choses. En fait, c'est la force de Teresa Rovet qui nous fait non seulement des grands romans historiques, mais avec une documentation travaillée, soignée. Là, on va la plonger dans le monde des soyeux, de l'échange du tissu, le début de cette espèce de mondialisation, la guerre va arriver, tout est très très bien tenu et c'est très très divertissant.
Ce qui est incroyable, Stanislas Rigaud, on fait de la radio, mais même avec votre masque, on voit votre sourire et votre enthousiasme dans les yeux. C'est incroyable, c'est pas donné à tout le monde. Un deuxième avant de passer à l'immense coup de cœur.
Voilà, Dominique Maison, Avant les diamants, aux éditions La Martinière. Alors, autre grand roman historique. Alors, changement d'ambiance, hein, puisque là, on va partir à Hollywood à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre, grosso modo, les aventures, et surtout les mésaventures, d'une galerie de personnages confrontés à la volonté de l'armée américaine d'infiltrer le cinéma américain, d'en faire une vraie machine de propagande. Alors, c'est merveilleusement construit, c'est un pulse, en fait, qui vous tombe dessus. Alors, à précision quand même que c'est relativement brutal et relativement cru, mais rien n'est gratuit. Et on plonge là-dedans. Effectivement, des grands fantômes se lèvent derrière, on pense, effectivement, à Elroy, tout ça. Mais c'est avant tout un excellent roman sur une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas.
Ah oui, c'est génial, on dirait même un film de Tarantino, un petit peu.
Tout à fait.
Alors, quel est votre immense coup de cœur, justement, en ce moment?
Alors, l'indispensable en ce moment pour moi, c'est bien évidemment le retour de Julianne Barnes avec L'homme en rouge au Mercure de France, qui va vous raconter le destin du docteur Pozzi. Alors, le docteur Pozzi, je fais le malin maintenant pour vous dire qui c'est, mais j'avais jamais entendu parler de ce bonhomme avant de lire le livre. Et c'est le grand médecin du Grand Paris de la fin du 19e siècle. Son assistant, c'est ni plus ni moins que le frère de Marcel Proust. Et donc, on va suivre cet homme qui est à la fois lui-même un destin formidable, mais en plus, derrière tout ça, qui a le médecin des artistes, le médecin de la haute aristocratie, donc on va croiser tout le monde. Et Julian Barnes nous fait un livre à la croisée des chemins, mi-beaux-arts, mi-histoire, le tout dans le monde de la littérature. C'est brillamment écrit, c'est souvent drôle, il y a quand même des répliques qui tuent inoubliables, et en plus de ça, il y a une illustration, c'est-à-dire que le livre contient beaucoup de tableaux, de photos qui illustrent les différents personnages. C'est un bijou de cette fin d'année.
On récapitule donc Teresa Revet, La nuit du premier jour, Dominique Maison, Avant les diamants, et puis Julian Barnes, L'homme en rouge. Merci beaucoup.
Merci Nicolas.
Europe 1.
Rayon jeunesse, dans un instant, on rejoint Victor Dolande, Pierre Ribas. Je suis sûr que vous êtes né avec un livre dans les mains.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Alors cette semaine, ce n'est pas un livre de littérature jeunesse. Vous nous parlez d'un podcast. Un podcast qui fait partie d'une série intitulée Les affaires criminelles. Et aujourd'hui, c'est l'affaire Dracula.
Oh oui, l'affaire Dracula qui a été débattue à la cour d'assises de Paris à l'été 2014.
Première nouvelle.
Pendant un mois, elle a réuni des experts, des psychiatres autour de la personnalité de Vlad Tepes, accusé d'homicide volontaire avec préméditation sur 4 personnes. Un hématologue, une généticienne, un historien membre de l'Académie des sciences et une sage-femme. Tepes reconnaît les 4 meurtres, rien d'extraordinaire jusque-là, sauf que le mode opératoire et le fait que Tepes assure qu'il est un seigneur de guerre né en 1431 quand même, prisonnier d'un serment qui l'a transformé en vampire, le premier des vampires, le maître de la nuit, j'ai nommé le comte Dracula.
D'accord, et ce sont donc les experts qui mènent l'enquête.
Alors, en tout cas, qui vont avoir un rôle vraiment déterminant au tout début. Il y a notamment Nathan Passage, expert, dont le métier est de tracer vraiment la ligne entre la folie et la manipulation, métier très délicat. Voici un extrait de ce podcast où Nathan Passage explique ce qu'il a eu en face de lui.
Voyez-vous, au cours de ma carrière, j'ai expertisé plusieurs sujets qui se prenaient pour Jésus, Mahomet, Bouddha, une dizaine de Napoléon quand même, quelques Hitler, un Louis XIV, deux Mozart, plus une toute petite clique de héros ou de criminels célèbres, hein, voyez. Mais Vlad Tepes, ça a été mon premier vampire et certainement l'être le plus fascinant qu'on m'ait donné d'évaluer. Ouais, j'ai dit l'être, vous avez remarqué, j'ai pas dit l'homme.
Cet expert va finalement préconiser un internement à vie pour Vlad Tepes plutôt que la prison, sauf que Vlad Tepes, ben, il va se volatiliser, il a réussi à s'échapper.
Et donc la suite du podcast, c'est la recherche de Vlad Tepes ?
Exactement, pendant plus d'une heure et demie, on part sur les traces de Vlad Tepes, ses origines, là où il a vécu, les gens qui l'ont connu, une enquête à tiroir, des rebondissements, une bonne dose de frissons avec des meurtres tous plus crapuleux les uns que les autres et un casting de choix pour ce podcast. Toby Nathan, que vous venez d'entendre à l'instant, dans le rôle de l'expert. Il y a aussi Maître Rachel Lindon dans le rôle de l'avocate générale. Hervé Thémine, quand même, excusez du peu, dans son propre rôle. Et même notre confrère Patrick Cohen, lui aussi, dans son propre rôle. Bref, un podcast à écouter de toute urgence.
On rappelle le titre, l'affaire Dracula. Oui, parce que Vlad Tepes, c'est le vrai nom de Dracula.
Exactement.
Création originale, librement inspirée du roman culte de Bram Stoker. Donc, ce podcast écrit par Eve de Castro et Audrey Sioux, réalisé par Volume Sonore, produite par Kobo. Merci Victor.
Merci Nicolas, à la semaine prochaine.